En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériens. Une grande foule le suivait parce qu'il avait vu ses signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit une foule nombreuse venir vers lui. Il dit à Philippe, où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger? Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il avait. Philippe lui dit, le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. Un de ses disciples, André, le frère de Simon Pierre, lui dit, il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? Jésus dit, faites asseoir les gens. Il y avait beaucoup d'air à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et, après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur pain, il dit à ses disciples, rassemblez des morceaux au surplus pour que rien ne se perde. Ils les rassemblèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des pains et 5 pains d'orge. Restez en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la suite du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, c'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. Mais Jésus savait qu'il allait l'enlever pour faire de lui leur foi. Alors de nouveau, il se laissa dans le montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est vraiment lui, le grand prophète, celui qui devait venir dans le monde. C'est par ces paroles-là que la foule va réagir devant Jésus après la multiplication des pains. Mais ces paroles-là nous renvoient à Moïse. Pas c'est Moïse qui les avait prononcées à la fin de sa vie. En fait, qui est Moïse? Moïse, c'est le prophète des prophètes de l'Ancien Testament. Dans toute la tradition biblique, le prophète, c'est Moïse. C'est lui qui s'entretenait avec Dieu. Et par ses relations avec Dieu, il a pu obtenir des exploits, des prodiges en faveur d'Israël. Et parmi ces prodiges, il y a eu la manne. Cette nourriture qui est descendue du ciel. À la fin de sa vie, Moïse, devant son peuple, dit « Après moi, le Seigneur notre Dieu va envoyer un autre prophète de ma trempe qui fera les mêmes exploits que moi. » À partir de ce moment-là, le peuple d'Israël a toujours attendu ce prophète-là, celui qui était annoncé par Moïse, qui est le Messie. Et aujourd'hui, dans le récit qu'on vient d'entendre, le peuple devant cette merveilleuse action de Jésus, à partir de 5 pains d'orge et de 2 poissons, il nourrit 5000 personnes. Alors le peuple reconnaît le messianisme de Jésus, reconnaît la vraie identité de Jésus. Il reconnaît finalement qui est Jésus pour elle, la foule. Mes amis, quand nous écoutons ce récit-là, vous et moi, nous sommes invités à approfondir notre connaissance de Jésus-Christ. Ce récit voudrait d'abord nous offrir la vraie identité de Jésus. Pour toi, pour moi, pour nous, qui est Jésus? En fait, c'est lui le Messie, le dernier mot de Dieu, celui que le Seigneur envoie dans le monde pour restaurer l'humanité, celui qui donne sens à nos vies, celui qui donne la direction à nos vies, celui qui nous met en communion avec le Père. Voilà la signification de Jésus. Voilà le sens de notre relation envers le Seigneur. Nous sommes invités à partir de ce récit à renouveler notre engagement, notre foi dans le Messie, en Jésus comme Messie, celui qui donne sens à nos vies. En fait, quand nous réfléchissons sur ce texte, nous voulons en quelque sorte grandir dans la connaissance de Jésus-Christ. Comme nous disons, dans notre recherche de renouveler notre paroisse, nous voulons croître spirituellement. Alors, la manière de croître, c'est justement essayer d'approfondir notre relation avec Jésus-Christ. C'est lui qui vient aujourd'hui nous révéler le vrai visage de Dieu, le vrai sens de la vie, le vrai sens de la liberté. C'est lui qui est au centre, au cœur de notre vie. À ce sens-là, nous ouvrons notre cœur pour qu'il pénètre au tréfonds de nous-mêmes en vue de nous transformer et qu'il nous apprenne à nous mettre à son service au quotidien. Voilà la première idée, me semble, capitale qu'on peut tirer de ce beau récit d'aujourd'hui. La deuxième idée vient de la réaction des disciples. Regardez, les disciples, devant cette foule immense, ils se rendent compte que ces personnes-là les ont suivis plusieurs jours. Et les personnes commencent à avoir faim. Comment les nourrir? Ils se rendent compte que parmi eux, il y avait un jeune enfant avec 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais dis-moi, qu'est-ce que cela peut être devant une si grande foule? Et même si on avait le salaire de 200 journées, on ne pourrait pas nourrir une si grande foule. Mes amis, cette attitude des disciples manifeste l'incapacité humaine devant certaines situations. Nous sommes des êtres limités, des êtres imparfaits. Il y a des situations dans la vie où tu te sens désarmé, devant une maladie incurable, devant le deuil, devant la mort. Regardez ce que nous venons de voir ces derniers jours dans les nouvelles, les feux qui jaillissent un peu partout. Ici en Ontario, on parle de Perry Sound, où on dit le feu est incontrôlable. En Colombie-Britannique, en Californie, c'est catastrophique. On a appris ce qui est arrivé avec le feu en Grèce. Alors on regarde ces situations-là, on se sent désarmé, on sent l'incapacité humaine à revenir, à résoudre certains problèmes qui arrivent dans l'histoire humaine, dans la vie humaine. À la manière des disciples, des apôtres, qui se sentent désemparés, qui se sentent limités, imparfaits, alors ils se tournent vers le Seigneur. Ils se tournent vers Jésus. Et voilà ce que nous avons. Uniquement 5 pains d'orge et 2 poissons. Jésus accepte ce qu'ils offrent. Et à partir de cette nourriture-là, il fait une œuvre merveilleuse. Il nourrit des foules. Il nourrit plus de 5000 personnes. Comme pour dire, il faudrait aller au Seigneur avec confiance. Et lui nous transforme, et lui nous change. Dans le prions d'aujourd'hui, vous l'avez peut-être remarqué à la page 2, je donne l'exemple de la multiplication de pain qui peut arriver aujourd'hui. Je donne l'exemple de ce qui est arrivé dans la vie de Madre Teresa. Alors qu'elle vivait à Calcutta, à l'orphelinat, à un moment donné, il y avait la crise alimentaire à l'orphelinat. Alors les religieuses commencent à s'inquiéter. Comment est-ce que nous allons nourrir les enfants? Mais ils vont mourir de faim. Où est-ce qu'on va trouver à manger? Elles se mettent à prier comme d'habitude et puis à chercher des solutions. Voilà qu'à cette époque-là, à ce moment-là, dans la ville de Calcutta, les enseignants entrent en grève et on ferme les écoles. Mais le gouvernement avait l'habitude, à chaque jour, d'amener de la nourriture aux écoles pour nourrir les enfants. Résultat, les directeurs se sont retrouvés avec tant de nourriture dans leurs réserves. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette nourriture? Oh, il y a Mère Teresa qui a un orphelinat en ville. Le lendemain, des camions et des camions entrent dans l'orphelinat. Les soeurs n'en reviennent pas d'où ça. Qu'est-ce qui se passe ici? multiplication de la nourriture actuelle, à la manière de Jésus. Tu ne peux pas savoir comment Dieu peut répondre à ton incapacité. Tu ne peux pas savoir comment Dieu peut utiliser tes 5 pains d'orge et tes 2 poissons pour faire des merveilles. Tu ne peux pas savoir comment Dieu peut utiliser ton peu de talent, d'aimer, de rendre service. Tu ne peux pas savoir comment il peut travailler avec toi pour faire du bien autour de toi. Mais ce qu'il faut, c'est s'adresser avec lui avec confiance, aller à lui avec confiance et se laisser porter par lui. Voilà comment nous pouvons comprendre cette multiplication de pain aujourd'hui. En fait, quand on réfléchit encore une fois, on regarde ce qui se passe dans le récit actuel, on se rend compte que le peuple, quand il a vu ces grands prodiges, quand il a vu la multiplication de pain se réaliser, alors le peuple a voulu garder Jésus, le conserver, le garder pour lui, pour qu'il devienne roi. Devienne roi pourquoi? Parce que il a donné à manger, il fait des signes merveilleux, et puis il guérit les malades, et il guérit les lépreux. Alors nous allons le garder pour nous. Le peuple voudrait prendre la force de Jésus, le pouvoir de Jésus, pour l'utiliser à son intérêt propre. Il veut maîtriser le pouvoir de Jésus pour le mettre dans ses poches et l'utiliser à son dessein. Le peuple n'entre pas dans le dessein de Dieu pour voir où mener le messianisme du Christ. Mes amis, vous et moi, souvent, quand nous nous adressons à Dieu, à Jésus, nous avons cette attitude-là de ces 5000 personnes. Nous voulons nous saisir du pouvoir de Jésus pour le mettre à notre service. Est-ce que nous considérons Jésus comme quelqu'un qui est avec nous pour nous battre contre les autres? Est-ce que le Messie vient à notre secours en vue d'écraser les autres, en vue de dominer les autres, de montrer aux autres que nous sommes les plus forts, nous sommes les meilleurs? Où nous entrons dans l'esprit du Messie, l'esprit de se faire nourriture pour se mettre au service de tout le monde. Lui, il nourrit les foules. Pas de distinction. 5000 personnes, tout le monde à provision a reçu à manger. Nous autres là, nous sommes invités avec ces gestes de Jésus d'entrer dans son sillage, dans son esprit, qui est celui d'ouverture, qui est celui d'accueil sans distinction, qui est celui de se mettre au service de toute personne. Alors quand on regarde comment lui-même s'exprime, eh bien, il nous invite à être nourriture pour les autres, à nous mettre au service des autres continuellement. Il y a un auteur que j'ai lu ce matin, lui qui dit, regardez, en fait un auteur du 4e siècle, il dit, vous savez, Jésus a fait la multiplication de pain pour apprendre aux chrétiens, aux chrétiennes à manger du pain et à le préparer à manger l'Eucharistie, son pain. C'était une préparation. Il a fait aussi, il a changé l'eau en vin pour permettre à ses disciples de goûter le vin en vue de le préparer au vrai vin qui est son sang. Donc, la multiplication de pain nous conduit à l'Eucharistie, au don de la vie, au don de la personne. C'est pourquoi je vous prie, vous et moi aujourd'hui, à faire simplement une seule prière au Seigneur, de demander au Seigneur qu'il nous fasse devenir de la nourriture pour les autres. Que ce que nous sommes, ce que nous avons, eh bien, que nous apprenions à nous mettre au service des autres. Et que la faim, que nous ne nous arrêtions pas seulement à la faim physique, qu'il y a des fins spirituelles, il y a la faim d'amour, la faim de respecter les droits humains, la faim de justice, la faim et soif de faire du bien. Il y a tout cela qui revient. Regardez l'exemple qu'on a eu pendant les vacances, ces enfants-là, les 12, qui étaient enfermés dans une cave, qui étaient pris au piège en Thaïlande. Alors, c'est vrai, il n'y avait pas seulement la faim physique, il y avait aussi la faim de la liberté, la faim de sortir, la faim de la vie. Et le monde entier avait faim de voir que ces enfants-là puissent en sortir. Et moi je crois, avec les prières que j'ai vues, les gens prier là-bas en Thaïlande, dans le monde entier, personnellement je crois que le Seigneur est intervenu pour voir comment guérir ces enfants-là. Et ce qui m'a frappé, celui qui entraînait les jeunes. Non seulement il s'est préoccupé des jeunes, il demande pardon. Il n'avait pas seulement faim des jours qu'ils ont passé là sans rien manger, il avait faim du pardon. Il demandait pardon aux parents. Donc il y a aussi cette faim-là spirituelle dont on a besoin. Alors nous là, quand nous demandons au Seigneur de faire de nous de la nourriture, nous voulons nourrir notre entourage et spirituellement et physiquement. Alors demandons la grâce du Seigneur de nous ouvrir les mains et de faire de nous des êtres généreux. Amen.